Bonjour frères et sœurs, il est vraiment bon d'être ici. C'est une chose habituelle à dire à la fête des tabernacles, mais c'est vrai, il est certainement bon d'être ici à la fête de Dieu. Pendant la présentation de M. Arsenault, je n'avais aucune idée de ce qu'il disait. J'écoutais simplement afin d'entendre mon nom. Je suppose que mon nom était l'indice pour me laisser savoir quand commencer à marcher vers la scène. Il est aussi bon que nous puissions être en direct avec les Caraïbes. Commençons par quelques écritures montrant la certitude absolue de l'établissement du royaume de Dieu. Reportons-nous au chapitre 7 de Daniel. Il y a quelques passages très intéressants ici qui impliquent notre avenir. Daniel 7, versets 13 et 14. Je vais simplement commencer à lire. Je regardais dans des visions nocturnes et voici quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, faisant évidemment référence à Jésus-Christ, vint sur les nuées du ciel. Il vint à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Alors il lui fut donné la domination, la gloire et le règne, afin que tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et son royaume celui qui ne sera pas détruit. Nous ne passerons pas dans son royaume, celui qui ne sera pas détruit. Et plus loin dans ce chapitre, au verset 26, « Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. » Il s'agit bien sûr de ceux qui s'opposent au Christ à son retour, la puissance de la bête et les autres. Au verset 27, « Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. » Un autre verset auquel nous avons déjà fait référence pendant la fête est Ésaïe 9 et au verset 6. Vous n'avez pas besoin de vous y reporter, mais fait référence à Jésus-Christ en tant que prince de la paix et à son royaume. Il est dit « Donnez à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin ». Et il y a une myriade d'autres versets comme celui-ci. Dans le Nouveau Testament, dans Actes 1, versets 6 à 8, où le Christ est apparu à ses disciples et pendant 40 jours leur a parlé de choses relatives au royaume de Dieu, nous voyons qu'ils étaient impatients de voir sa venue et ils ont dit « Quand cela va-t-il se produire ?» Et le Christ répondit « Attendez, cela va se produire. Frères et sœurs, selon la parole de Dieu, ce sont des absolus. » Maintenant, il y a aussi une autre écriture à laquelle je pense et à laquelle il a déjà été fait référence lors de la fête, où il est dit « Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Ce sera un événement joyeux dans le ciel et certainement au trône de Dieu. Maintenant, certains disent qu'il n'y a pas d'absolu. Eh bien, c'est absolument faux, absolument incorrect. La certitude du royaume de Dieu est l'un des nombreux absolus mentionnés dans la parole de Dieu, tout comme la réalité de ceux qui feront partie de ce gouvernement, ce que nous venons de lire dans Daniel chapitre 7. Nous lisons dans la parole de Dieu, et il y a déjà fait référence dans une certaine mesure, comment les villes et les villages seront reconstruits et que dans le processus, la vie des gens sera aussi reconstruite. Encore une fois, la certitude du royaume de Dieu est absolue. Mais vous savez, dans le monde actuel, il y a des gens qui font des efforts en ce qui concerne les villes. Ils ont des idées basées sur une certaine compréhension, mais cela n'est pas suffisant. Dr. Wenell a écrit un article au sujet des villes de demain. Il écrivit il y a environ 18 ans. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, mais d'autres pas. Je vais citer un extrait de ce qu'il dit. On a dit que les villes étaient la plus grande réalisation de l'humanité. Pourtant, elles présentent également aux êtres humains certains des dilemmes les plus difficiles et les plus stimulants. Les villes abritent des bâtiments historiques, des gratte-ciels imposants, des complexes sportifs géants et d'autres structures monumentales. Elles sont également des centres de finances publiques, de culture et de commerce. Les grandes universités et les sites religieux importants y sont généralement situés. Les villes en expansion sont souvent associées à une économie florissante, mais pas toujours. Aujourd'hui, de nombreuses villes reconnaissent la nécessité de restaurer les quartiers, de revitaliser les fronts de mer et les centres-villes, et de reconstruire des systèmes de transport public efficaces. De plus en plus d'urbanistes comprennent la nécessité de créer des villes conviviales conçues à l'échelle humaine, qui offrent la beauté, des voies piétonnes et le contact avec la nature. Pourtant, le fléau cancéreux de l'étalement urbain et la croissance de bidonvilles rongées par la maladie continuent de se propager dans le monde entier. C'est certainement le cas dans les grandes villes comme Montréal et Toronto d'ailleurs. La circulation dense et les embouteillages existent, et c'est un problème majeur causant colère, frustration, anxiété et rage au volant. Vous savez, nous voyons des gens qui essayent d'aller vite, mais ils ne vont nulle part à cause des embouteillages qui existent. Est-ce que j'exagère ? Non, je n'exagère pas. Dans la Bible, nous avons des informations au sujet des premières villes. Regardons simplement Genèse au chapitre 10. Genèse chapitre 10. Genèse 10, et nous allons commencer au verset 8, où il est dit « Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur, et il bâtit Ninive, Rohoboth-Ir, Kalash et Rézène entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville. » Ainsi, des villes ont été construites à cette époque. Maintenant, si vous regardez les versets 3 et 4 du chapitre 11, ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Ce qu'il a construit était une tour, et il y a beaucoup de tours dans ce monde. Il y a beaucoup de camps d'eau qui sont extrêmement hauts. Nous vivons nous-mêmes dans un camp d'eau, et nous vivons au 29e étage. Et dans cet édifice, il y a 700 personnes entassées comme des sardines. Heureusement, certaines des suites sont assez grandes, mais encore une fois, c'est le genre de situation qui existe. Monsieur Richard Ames, dans un article, a écrit « L'idée d'une utopie mondiale est-elle un rêve impossible ?» La comédie musicale « L'homme de la Mancha » jouée à Broadway en 1965 comportait une chanson populaire intitulée « The Impossible Dream », la quête. D'aussi loin que l'on se souvienne, l'humanité a cherché à créer un monde parfait. Pourtant, toutes les tentatives humaines d'utopie ont échoué de manière spectaculaire. L'idée de base de l'utopie est un monde glorieux, parfait, de paix et de prospérité. Le mot lui-même dérive du grec signifiant « aucun endroit » ou « nulle part ». Fin de la citation. Un homme du nom de Thomas More, vous avez peut-être entendu parler de lui, a décrit sa vision de l'environnement et de la ville parfaite dans un ouvrage intitulé « L'Utopie ». C'est un ouvrage de fiction, bien sûr, et ce qu'il a développé et écrit est en fait une satire sociopolitique. Il écrivit cela il y a environ 500 ans. L'œuvre fut publiée en 1516. Wikipédia décrit ce livre en disant « Il a dépeint une société insulaire, fictive, et ses coutumes religieuses, sociales et politiques. » Nombreux aspects de la description de l'utopie par More rappellent la vie dans les monastères, parce qu'il était un fervent catholique. Les caractéristiques de ce lieu fictif sont ensuite décrites comme suit. Il n'y a pas de propriété privée à Utopia. Il n'y a pas non plus de serrure sur les portes des maisons. L'agriculture constitue l'occupation la plus importante de l'île. Chaque personne l'apprend et doit vivre à la campagne, en cultivant pendant 2 ans à la fois, les femmes faisant le même travail que les hommes. Tous les citoyens valides doivent travailler. Ainsi, le chômage est éradiqué. C'est une idée nouvelle que les gens doivent travailler. L'esclavage est une caractéristique de la vie utopique. Et il est rapporté que chaque ménage a 2 esclaves. C'est donc l'utopie, sauf pour les esclaves. C'est vraiment ce à quoi cela revient. Parmi les autres innovations significatives de l'utopie, citons un État-providence avec des hôpitaux gratuits, l'euthanasie autorisée par l'État, le droit de se marier pour les prêtres, le divorce autorisé, les relations sexuelles avant le mariage punies par un célibat forcé à vie et l'adultère puni par l'esclavage. Il existe plusieurs religions sur l'île. Il y a les adorateurs de la lune, les adorateurs du soleil, les adorateurs des planètes, les adorateurs des ancêtres et les monothéistes. Mais chacun est tolérant envers les autres. Seuls les athées sont méprisés, mais ils sont tout de même autorisés à Utopie. Fin de la citation. Thomas More était un fervent catholique et le pape Léon XIII le béatifia le 29 décembre 1886. Certains d'entre vous, d'origine catholique, le savent peut-être, mais le 31 octobre 2000, le pape Jean-Paul II a déclaré M. More patron céleste des hommes d'État et des politiciens. Une information intéressante. Ainsi, les hommes rêvent, vous savez, l'humanité espère et désire une certaine forme d'utopie. Ils écrivent des livres à ce sujet, ils écrivent des articles à ce sujet, ils la désirent, ils en rêvent. Mais jusqu'à présent, l'environnement parfait dans les villes et ailleurs n'a pas été atteint. Maintenant, demandons-nous, est-ce que c'est le genre d'utopie décrite dans la parole de Dieu ? Ce que nous venons de lire a peut-être certains aspects qui y ressemblent, comme l'absence de serrures sur les portes et puis les gens qui travaillent, etc. Aujourd'hui, nous allons nous examiner une caractéristique distinctive ou un signe distinctif du royaume de Dieu, une certitude absolue. Le titre de mon sermon est « Une marque distinctive du royaume ». La plupart d'entre nous sont familiers avec le mot « hallmark ». « Hallmark » est un mot anglais. Et la raison pour laquelle je suis un peu familier avec ce nom est que souvent lorsqu'il s'agit d'acheter une carte cadeau ou une carte de souhait, les gens ont tendance à acheter des cartes Hallmark. Je n'ai pas tendance à le faire parce qu'elles sont très chères. Mais de toute façon, les gens connaissent le mot Hallmark à cause des cartes Hallmark. Ce mot anglais peut être synonyme de marque de commerce. Il est défini comme étant marque officielle apposée sur les articles en or et en argent en Angleterre pour en attester la pureté. Une marque placée sur un article commercial pour indiquer son origine ou son authenticité, une caractéristique, un trait ou un élément distinctif. Donc à nouveau, le mot hallmark signifie un trait ou une caractéristique distinctive et est un synonyme de marque de commerce et de marque d'identification. Vous savez, en tant que peuple de Dieu et qu'Église de Dieu, nous avons des caractéristiques distinctives, des marques ou des signes d'identification montrant que nous sommes en fait l'Église de Dieu et son peuple. Et vous pouvez en citer plusieurs. Le sabbat, nous observons le sabbat de Dieu comme il nous l'ordonne. C'est le signe distinctif de qui nous sommes. Nous savons que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Nous ne croyons pas à la doctrine de la Trinité. Nous reconnaissons que les jours saints de Dieu sont les fêtes établies par Dieu. Dieu dit lui-même, « Ce sont mes fêtes ». Nous croyons en l'Évangile, la bonne nouvelle du gouvernement de Dieu. Nous ne croyons pas en quelque chose qui se trouve simplement dans votre cœur ou dans une église en tant que telle, ce que certaines grandes églises prétendent être. Et nous n'édulcorons pas le message et ne spiritualisons pas les choses de la parole de Dieu, comme le millénium, par exemple. Examinons donc cette marque ou cette caractéristique distinctive du royaume et de ceux qui gouverneront les villes de demain. Tout d'abord, utilisons notre imagination pour voyager vers le futur, jusqu'à un événement très important dans le temps. Mettons-nous collectivement dans une machine à remonter le temps. Attachez vos ceintures, pour ainsi dire. Alors, quel est ce décor ? Eh bien, nous traversons le temps, jusqu'à l'époque du début du millénium. Jésus-Christ est revenu et l'Église de Dieu est née dans la famille de Dieu. C'est le moment où nous sommes nés de nouveau. Enfin nés de nouveau. Et nos corps physiques ne sont plus. Nous sommes esprits. Nous verrons Jésus-Christ tel qu'il est. Certains sont ressuscités des morts, d'autres sont instantanément transformés de mortels en immortels. Lorsque la septième trompette retentit, un bourdonnement d'excitation et de réjouissance se produit. Je peux certainement l'imaginer. Une grande période de rencontres et de salutations se produit, et pour la première fois, tout le peuple élu de Dieu se tient devant le puissant et triomphant Jésus-Christ, le roi Jésus-Christ. Ils attendent de recevoir leur poste de responsabilité et de services dans le nouveau gouvernement mondial. Et vous avez l'occasion de rencontrer des personnes notoires comme Abel, Abraham, Moïse. Je sais que j'en oublie beaucoup en chemin. L'apôtre Paul, Samson, oui, Samson sera là. Regardez Hébreux 11, découvrez-le. David, bien sûr, Anna, Ruth, etc., etc., etc. Maintenant, c'est votre tour, et alors que vous vous présentez devant le Christ, vous sentez la puissance qui rayonne de lui, et vous réalisez que Jésus-Christ sait qui vous êtes. Il vous connaît. Bien sûr, il vous connaît. Grâce à la relation que vous avez forgée avec lui durant votre vie physique, par la puissance du Saint-Esprit et en adoptant son mode de pensée. Vous savez, le psaume 139 me vient à l'esprit. David y dit à Dieu, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Donc vous serez connu. Je serai connu, j'espère, que je serai là et que vous y serez aussi. » Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'on nous donnera nos nouveaux noms, comme la Bible en parle. Et alors le Christ vous dira directement, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Vous avez été fidèle dans les choses que je vous ai données à faire. Vous avez vaincu et vous avez persévéré jusqu'à la fin. Bienvenue dans le royaume et le gouvernement de Dieu. » Puis il déclarera, « Et je vais vous donner l'autorité sur 10 villes. » Et vous direz, « Quoi ? Moi ?» Vous savez, M. Brochu a aussi mentionné ceci dans un sermon hier. Et c'est un concept merveilleux, une idée merveilleuse. Ce n'est pas seulement un concept, c'est la vérité. C'est l'une de ces choses certaines et absolues. Mes frères et sœurs, le Christ fera-t-il vraiment cela ? Nous donnera-t-il l'autorité sur des villes ? En partie, c'est ce que la Bible appelle notre espérance vivante, et cela implique un certain nombre de choses, non seulement d'être dans la famille de Dieu, mais d'avoir des positions d'autorité et de service. Allons maintenant à Matthieu chapitre 20. C'est quelque chose de très important qu'il faut comprendre concernant notre position et les responsabilités que nous aurons. Les disciples étaient conscients de ce que le Christ a dit concernant leur espoir et ce que sera leur avenir en tant que roi sur les tribus d'Israël. Mais ici, dans Matthieu 20, versets 21 et 22, en particulier au verset 20, vous trouvez la mère des fils de Zébédée, et elle essaie de promouvoir ses fils, et elle a demandé qu'ils aient une position de droite et une position de gauche à son trône dans le royaume. Et si vous regardez au verset 22, Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. » Le Christ ne la réprimandait pas. C'était un souci naturel de mère de voir ses fils réussir. Et donc, il dit, « Tu ne sais pas vraiment ce que tu demandes. » Le verset 22 poursuit disant, « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?»« Nous le pouvons, » dirent-il. Bien sûr, il disait cela à ce moment-là, à ce point-là. Puis, au verset 25, Jésus les appela, il appela ses disciples, et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Ils aiment leur poste, ils aiment leur position plus élevée et être en charge, et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Qu'il soit votre serviteur. Frère, le point de vue du Christ est le suivant. Être dans la famille de Dieu, ce n'est pas pour avoir des idées de grandeur. Être dans la famille de Dieu n'est pas pour se procurer le pouvoir. Ce que le Christ disait véritablement, c'est que nous devons être des serviteurs. Mais nous qualifierons-nous, vous et moi, pour ce poste de dirigeant, pour être des bâtisseurs et des restaurateurs? Et c'est ce que nous serons. Comment pouvez-vous enseigner ce que vous ne connaissez pas? Nous serons en charge de 10 villes, et peut-être n'avez-vous aucune expérience en la matière, d'une manière ou d'une autre. N'est-ce pas un peu exagéré et irréaliste? Certains pourraient dire « Non, ça ne l'est pas ». Voyons pourquoi. Il y a des années, de nombreuses années, un ministre de l'Église universelle de Dieu, quand c'était encore l'Église de Dieu, et il est mort depuis, avait écrit ce qui suit. Vous êtes-vous jamais arrêté pour penser à ce qui doit être fait pour gérer une ville, même une petite ville? L'eau, l'électricité, doivent être fournies. Les rues et les routes doivent être planifiées. Et le code du bâtiment doit être établi. Les ordures doivent être collectées. L'évacuation des eaux usées doit être organisée. Et qu'en est-il des transports, du système scolaire, des magasins et des lieux de divertissement? Les impôts, bien sûr, doivent être ramassés et les fonds doivent être affectés aux milliers de dépenses nécessaires au bon fonctionnement d'une ville. Qu'en savez-vous? Qu'est-ce que j'en sais? Aujourd'hui, certains des meilleurs cerveaux du monde, poursuit-il, ne parviennent pas à faire fonctionner nos villes. Et c'est aussi la conséquence des restrictions budgétaires, du gaspillage, de la politique, de la cupidité et bien sûr de la bureaucratie. Nous sommes tous confrontés à la bureaucratie. Puis l'écrivain demande « Alors qu'est-ce qui vous fait penser que vous ferez mieux dans le monde de demain, dans le royaume de Dieu ?» Ce qui est tout à fait clair, c'est que le monde dans lequel le Christ reviendra aura besoin d'une aide urgente. Il le trouvera meurtri, et nous le trouverons meurtri et abattu de tant de façons, conséquence de notre façon de vivre et bien sûr de l'influence du Dieu de ce monde, meurtri par la domination de Satan et châtié par les événements du jour du Seigneur. Mais à partir de Jérusalem, la guérison et la reconstruction commenceront, et la restauration commencera. Il y aura une restauration. Et ce que nous voyons comme édifices d'église, etc., franchement, ils ne seront plus. Je suis allé à Florence, en Italie. C'est une ville étonnante. L'architecture des églises partout est impressionnante. Ce sont de vieilles églises qui ont parfois, je pense, plus de 1000 ans, comme celle en Grande-Bretagne. Eh bien, franchement, elles auront toutes disparu. Cela pourrait vous faire frémir un peu, mais ce sera le cas. Elles n'existeront plus. Elles n'existeront tout simplement plus. Et des villes, des villages et des représentants même des nations les plus fières, des gens de partout feront leur chemin vers le siège du gouvernement du Christ pour qu'il leur enseigne ses voies et pour apprendre ses sentiers. Notez simplement Ésaïe 2, versets 1 à 4 à cet égard. Et le Christ disposera d'une équipe possédant toute l'expertise nécessaire pour montrer à l'humanité comment vivre et comment les choses doivent se faire. Le Christ veillera à ce que nous soyons qualifiés pour construire, restaurer, diriger et superviser. Et bien sûr, nous n'aurons pas besoin de dormir. Vous savez, il est dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Vous serez éveillés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et le gouvernement de Dieu fonctionnera dans tous les sens du terme. Le ministre continue en écrivant « Mais je n'ai aucune expérience de la gestion de la ville. » Vous pourriez vous dire « Comment serais-je prêt ?» Le Christ s'est-il peut-être trompé en choisissant les choses faibles du monde ? M. Brochu l'a également mentionné dans son sermon. 1 Corinthiens 1, versets 26 à 28 couvre cela et parle des choses faibles du monde qui sont en train de se qualifier pour son royaume. L'article poursuit. Certains pensent qu'il aurait peut-être été préférable de choisir son peuple parmi les maires, les gouverneurs et même les présidents et les premiers ministres du monde. Après tout, ils ont l'expérience nécessaire pour remplir, d'une certaine manière, les fonctions administratives qui sont requises. Et bien sûr, ils dirigent et ils ont des comités, et c'est leur travail. Ils ont l'expérience. Vous pourriez dire, je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Peut-être aurait-il dû sélectionner et appeler les architectes et les ingénieurs les plus compétents, des ingénieurs civils, des experts en urbanisme, des opérateurs de télécommunications, ou peut-être la crème de Microsoft, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que nous pensons. Et ceux qui ont de l'expérience et de grandes entreprises, peut-être quelques magnats et quelques oligarques russes qui sont en fuite, pas vrai? Peut-être que Dieu aurait dû les choisir, les appeler, des gens avec un grand sens des affaires, ceux qui font des grands projets de construction. Peut-être l'architecte du One World Trade Center. Vous savez où c'est? C'est à New York. Il a remplacé l'un des bâtiments. C'est le bâtiment principal qui a remplacé les tours jumelles. Certainement, il s'y connaît en architecture. Je n'y connais rien, diront certains. Ces personnes seraient beaucoup plus qualifiées et elles ont l'expérience. Mais le ministre poursuit en disant « Il semble qu'il n'ait pas appelé beaucoup des puissants de ce monde. » M. Brochu a parlé de cela et j'en parle aussi. Par ce qu'il a dit, et je l'espère, par ce que je dis aujourd'hui, nous renforçons vraiment ce point. Nous renforçons cet aspect à propos de notre espoir et de notre avenir. Il y a des membres de l'Église qui ont dirigé des entreprises, il n'y a aucun doute là-dessus. Certains ont occupé des postes élevés au sein de leurs entreprises. Il y a aussi des personnes très intelligentes qui sont des ingénieurs, des médecins, des avocats, etc. Mais ils ne sont pas nombreux. Je pense que je suis assez précis en disant cela, et certainement pas les puissants du monde. Ceux qui font bouger les choses dans ce monde, j'en doute vraiment. L'auteur poursuit. Au lieu de cela, nous trouvons, en citant le verset 26 de 1 Corinthiens, nous trouvons que pas beaucoup, il n'a pas dit aucun, il a dit pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles sont appelés. S'agira-t-il d'une erreur? Je le répète, est-ce que ce sera une erreur? Certains pourraient dire, eh bien absolument pas. Il y a un autre absolu. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait exactement ce qu'il fait, et il sait exactement qui il appelle. Et lorsqu'il reviendra, son équipe dirigeante mondiale sera prête et capable. Et si c'est notre travail, si c'est notre responsabilité, si nous croyons, bien sûr, la parole de Dieu, oui, nous dirigerons des villes. Mais vous vous demandez peut-être encore, comment? Comment? Sur le plan physique, nous regardons la parole de Dieu, et nous voyons que Moïse était un être humain. Il avait une position de rang en Égypte avant que Dieu ne l'appelle. Puis Dieu l'a appelé. Mais même après cet appel, comme vous le savez, il a senti qu'il était incapable de communiquer efficacement jusqu'à ce que Dieu travaille avec lui et lui donne ce dont il avait besoin. Comme nous l'avons mentionné hier, Moïse était berger. Il y a une raison pour laquelle il était berger. Daniel était de la royauté. Il avait été amené en captivité à Babylone. Il était encore jeune au moment où il nous est présenté dans le chapitre 1 de Daniel. Mais il a assumé un grand pouvoir et des positions sous les rois et les empereurs de son époque, parce que Dieu a travaillé avec lui. Et puis il y a Joseph en Égypte, qui était si jeune, et qui a même passé du temps en prison. Mais grâce aux interventions de Dieu et à son travail avec lui, il est devenu très important en Égypte, et servi à sauver son peuple. Monsieur Brochu a mentionné David. David était berger. Il comprenait ce que cela signifiait d'être un berger. Il comprenait ce que cela signifiait de prendre soin des moutons et de les guider, pas de les pousser, mais de les guider. Il comprenait toutes ces choses. Dans la Bible, il y a d'autres exemples d'hommes et de femmes qui avaient peu d'expérience jusqu'à ce que Dieu commence à travailler avec eux pour les rendre capables, les inspirer, alors qu'ils se soumettaient à Dieu. Il a vu une attitude chez ces personnes. Et j'espère qu'il voit la même chose en nous aujourd'hui, un état d'esprit avec lequel il peut travailler, des personnes qui se soumettent à lui et en qui le Christ transforme la façon de penser et de se concentrer. C'est pourquoi il est dit ce qu'il est dit dans Romains 12, versets 1 et 2. C'est l'un de mes passages préférés. Soyez transformés. Dieu est en train de nous transformer pour que nous soyons comme lui et comme Jésus-Christ. Vous savez, c'est étonnant ce que Dieu peut faire avec un individu qui est humble. nous sommes capables d'être façonnés et formés, et nous sommes malléables entre ses mains. Mais ce sont des gens que Dieu connaissait, et espérons qu'il nous connaît, qui étaient fidèles dans les petites choses. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par petites choses? Eh bien, nous allons y revenir. Pour comprendre comment cela est possible, nous devons nous rappeler encore une fois ce qui a mal tourné dans ce monde. Depuis 6000 ans, depuis qu'Adam a rejeté le type de connaissance qui ne pouvait venir que de Dieu, les êtres humains ont essayé de trouver un mode de vie qui fonctionne et de donner à la vie un but plus grand que l'aspect physique. Ils veulent vivre pour toujours. Ponce de Léon arriva en Floride, je pense que c'était l'un des explorateurs, et il pensait avoir trouvé la fontaine de jouvence. Mais ce n'est pas le cas, il est mort. Et au fil du temps, Satan a inspiré de fausses religions, de faux concepts au sujet du paradis, et d'autres noms, et d'autres lieux de félicité, de relaxation du type Club Med. Mais l'humanité a échoué dans presque tous les domaines, sauf un. La race humaine a prouvé qu'elle était plus qu'adéquate pour résoudre les problèmes techniques, surtout au cours des 100 dernières années, des percées dans toutes sortes de choses, dans tous les domaines de la technologie qui ont transformé le monde. C'est absolument incroyable l'époque dans laquelle nous vivons. Mon père et ma mère se retourneraient dans leur tombe et voudraient probablement y retourner directement si je leur montrais mon iPhone et ce qu'il peut faire. Je suis certain qu'ils diraient « je ne veux rien savoir de tout ça ». Mais vous savez, nous vivons dans un monde incroyable. Ainsi, l'humanité, je ne veux pas utiliser le mot « progrès » et je ne veux même pas utiliser les mots « aller de l'avant », mais nous sommes arrivés au point où nous sommes capables de faire des choses techniques et d'inventer certaines choses, de sorte qu'au début du millénium, après la destruction à la fin de cet âge, le monde se sera rendu compte que la connaissance des choses physiques n'a pas produit un mode de vie qui fonctionnait. Cela peut sembler correct pendant un certain temps. Cela peut sembler assez cool, comme disent les jeunes, d'avoir telle ou telle chose. Mais l'humanité s'amènera elle-même, comme vous le savez, au bord de la destruction. Et seule l'intervention du Christ sauvera toute chair de l'extinction, comme nous l'apprenons à la fête des trompettes. Et Dieu ne permettra pas à l'homme de recommencer aveuglément à reconstruire sans la supervision d'êtres spirituels. En fait, ce sont les êtres spirituels qui contrôleront son peuple, et Jésus-Christ contrôlera ce qui se passera. Le Christ restaurera le gouvernement de Dieu pour montrer à ce monde le mode de vie de Dieu et pour enseigner les lois de Dieu. Et c'est ce que les nations monteront à Jérusalem pour apprendre. C'est une connaissance qu'ils ignorent pour la plupart, et s'ils en ont quelques bribes, parfois cela se met en travers de leurs agendas. Ils doivent l'apprendre dès le début, comme des petits-enfants. C'est comme nous, nous devons être de petits-enfants dans notre apprentissage et notre compréhension, être humbles et enseignables. Et nous, en tant que peuple de Dieu, devrions faire cet apprentissage en permanence. Dieu, par son esprit, nous enseigne une nouvelle façon de vivre et cela sera nécessaire. C'est une nouvelle façon de vivre que nous devrons promouvoir dans ce royaume, celle de partager et de coopérer, d'aider, vous savez, l'importance et la valeur de l'humilité, pas de l'orgueil, mais de l'humilité et d'aimer son prochain comme soi-même. Les gens en parlent, mais souvent cela ne se produit pas. C'est la façon dont Dieu vit et fonctionne, vous savez. Et si nous sommes conduits par son esprit, nous apprenons aussi à vivre de cette manière. Nous réalisons et découvrons que cela produit la paix, que cela fonctionne, et nous l'apprenons maintenant. Qui que vous soyez, nous devrions tous faire des progrès et apprendre à vivre à la manière de Dieu maintenant, si nous voulons la promouvoir dans son royaume. Mais cela peut-il vraiment nous qualifier pour diriger une ville? Vous savez, pour vous attaquer aux problèmes complexes, et il y aura des problèmes complexes, administratifs, organisationnels et personnels qui existeront, des gens avec toutes sortes de problèmes comme ils existent aujourd'hui. Ce sera un monde incroyable. Les problèmes de ce monde semblent parfois plus complexes qu'ils ne le sont en réalité, parce que la nature des problèmes n'est pas comprise. Laissez-moi vous expliquer. Si vous allez à l'épître de Jacques, Jacques chapitre 4, Jacques chapitre 4, versets 1 et 2. L'apôtre Jacques montre la véritable cause des querelles dans le monde et il pose la question. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. En d'autres termes, nos problèmes sont le résultat de la nature humaine et, bien sûr, de l'influence du Dieu de ce monde, le prince de la puissance de l'air. Et nos problèmes s'expriment par des choses comme la jalousie, le ressentiment, la vanité et la cupidité. C'est tout simplement la condition humaine. Les luttes entre les nations aujourd'hui ne sont en fait dans un sens que des petits problèmes devenus grands, de puissance mondiale à la gorge l'une de l'autre. Peut-être qu'une guerre peut sembler plus complexe que deux voisins qui se chicanent au sujet de la clôture arrière, mais c'est essentiellement la même chose. Qu'il s'agisse de nations ou d'individus, il semble dans certains cas qu'ils ne connaissent aucun autre moyen de régler leurs différends. Et la Bible dit clairement, dans Romains 3, verset 17, notez-le simplement, « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. » Regardez l'Ukraine et la Russie aujourd'hui. C'est la nature humaine à l'état brut qui se manifeste, n'est-ce pas? Sans égard pour les innocents, les personnes âgées réduites en miettes. La Russie a vraiment augmenté ses bombardements ces derniers jours. Je crois qu'il y a apparemment un pont que M. Poutine aimait beaucoup qui fut détruit, et certains disent que c'est une réponse à l'explosion de ce pont. Je n'en sais rien. Mais vous savez, si la cause est la même, la solution est la même, à savoir l'amour, la tolérance, le pardon, le partage, l'aide et le don. C'est ce genre de choses que nous allons promouvoir dans le royaume de Dieu. Et cette voie de vie, lorsqu'elle est pratiquée, produit la paix, le bonheur et la prospérité. Elle fonctionne entre les gens, et si on lui donne une chance, elle fonctionnera entre les nations. C'est le point principal. Jésus-Christ n'a pas besoin de vous voir en action à grande échelle pour savoir si vous pourrez administrer les lois qui mènent à la paix. Il le voit maintenant. D'ailleurs, nous résolvons les problèmes de notre vie et nous comptons sur Dieu et nous tournons vers lui. Malgré notre expérience, peut-être limitée, nous aurons la capacité d'enseigner aux autres la voie de la paix dans le monde de demain. Dieu n'a pas besoin de vous voir en action, gouvernant 10 villes maintenant, pour déterminer si vous savez observer et mettre en application sa loi et ses principes, si vous savez appliquer la loi de Dieu. Il peut voir par les simples décisions que nous prenons chaque jour dans notre vie, si nous comprenons et si nous allons lui obéir, ou si nous allons suivre la voie du monde. Dieu est en train d'analyser, il nous évalue. Et oui, nous devons être fidèles dans les petites choses de la vie maintenant. Non, elles ne sont pas toutes petites, mais elles le sont comparativement. Je peux vous donner quelques exemples. Qu'en est-il des finances? Seriez-vous capable de gérer la trésorerie d'une ville ou d'un pays? C'est vraiment mal géré dans de nombreux pays du monde actuel. J'ai été absolument choqué l'autre jour lorsque j'ai entendu que la dette américaine s'élevait maintenant à 32 000 milliards de dollars. Oui, 32 000 milliards! C'est un chiffre que vous ne pouvez même pas comprendre et qui ne peut pas être remboursé. Je ne m'en prends pas aux États-Unis, Ou peut-être que si. Je ne suis pas certain du montant de la dette canadienne, mais elle est nettement inférieure, mais nous sommes aussi un pays nettement plus petit. Dieu peut déjà voir, par la façon dont nous gérons nos finances personnelles, et même par notre attitude, comment nous agirons. L'attitude de certains devient plus évidente ces jours-ci à l'égard, par exemple, du paiement des impôts. Ils disent « Je ne veux pas payer d'impôts. Qu'est-ce que j'obtiens en échange de mes impôts ?» Pourtant, la Bible dit de rendre à César ce qui est à César. Luc 16 et au verset 11. Reportons-nous à Luc 16 au verset 11. Luc chapitre 16 et au verset 11. C'est la parabole de l'intendant injuste, une parabole intéressante en soi. Je n'ai pas le temps de la lire en entier, mais dans Luc 16 au verset 11, « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?» C'est tellement vrai. Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes. Et celui qui a été injuste dans les petites choses est injuste aussi dans les grandes. Donc si nous apprenons à être fidèles et loyaux dans les petites choses, et c'est le but, Dieu sait que nous le serons aussi quand il nous donnera de bien plus grandes responsabilités. Cela reflète une attitude d'esprit. C'est aussi démontré par la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25. Allons-y, Matthieu 25. Matthieu 25 et au verset 14. Matthieu 25 et au verset 14. Reprenons l'histoire au verset 20 et 21. Vous savez, après que le maître soit revenu et ait demandé aux serviteurs de rendre compte de leur gestion. Vous connaissez cette parabole. Elle se poursuit ainsi. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Christ montre qu'il peut savoir si son peuple développe les qualités d'un bon chef et de la maîtrise de soi, ce qui fait partie de la formation du caractère. Il le voit par la façon dont on gère les petites affaires de la vie. Celles-ci sont très importantes pour Dieu. Le serviteur qui a abusé de sa position de confiance a été disqualifié. Vous pouvez lire à ce sujet les versets 24 à 30. On ne pouvait donc pas faire confiance à cet individu. Alors, quel genre de décision prenons-nous maintenant? Telle est la question. Le ministre que je citais plus tôt a déclaré à ce sujet. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Dieu n'a pas testé Adam et Ève sur un problème gigantesque et complexe pour voir s'ils seraient obéissants ou non. Il les a tentés dans l'un des domaines les plus fondamentaux. Qu'allait-il manger? Qu'allait-il manger? Il succombe à la tentation et mange l'un des fruits du jardin que Dieu avait interdit. Confrontés à une décision relativement simple, ils ont fait le mauvais choix. La façon dont vous traitez votre conjoint, poursuit ce ministre, vos enfants ou vos amis, montre au Christ quel genre de dirigeant vous serez. Êtes-vous colérique? Est-il difficile de s'entendre avec vous? Êtes-vous rebelle? Êtes-vous peu coopératif? Êtes-vous injuste? Ce sont tous des tests décisifs de ce que nous pourrions être à l'avenir si nous nous laissons aller. Dieu ne veut pas cela. Christ a besoin de savoir cela maintenant, avant de nous confier une responsabilité majeure sur de nombreuses personnes. Le royaume de Dieu va apporter la paix au monde, plus des conflits. Ceux qui vont gouverner doivent montrer à Dieu dès maintenant qu'ils apprennent le chemin de la paix. Fin de la citation. C'est très bien dit. Ce ministre l'explique clairement. En tant que roi et sacrificateur dans le royaume de Dieu à venir, les fidèles enseigneront aux nations le chemin de la paix. Nous serons impliqués dans la construction, oui, et la restauration de lieux d'habitation paisibles, exactement comme le disent les Écritures, de beaux endroits dans des villes et des villages où il fera bon de vivre. Frères et sœurs, ce n'est pas un rêve impossible. Si nous croyons la parole de Dieu, ce n'est pas un rêve impossible. Regardons Ésaïe 32 et au verset 18. Ésaïe chapitre 32 et au verset 18. En fait, commençons au verset 16. Ces versets concernent l'avenir, et le sous-titre dans ma Bible dit « La paix du règne de Dieu ». Ce ne sont pas des mots inspirés, mais ils illustrent bien le fait. Au verset 16, « Alors la droiture habitera dans le désert, pas seulement dans les villes, mais partout, et la justice aura sa demeure dans le verger. » Au verset 17, « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. » Je crois que j'ai utilisé cette écriture lors de mon premier sermon. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles, mais la forêt sera précipitée sous la grêle et la ville profondément abaissée. Heureux vous qui partout semez le long des eaux et qui laissez sans entrave le pied du bœuf et de l'âne. Le mode de vie de Dieu aura un effet formidable. À nouveau, nous serons aussi là pour construire et restaurer la vie des gens et leur donner le même espoir que nous avons maintenant. Nous avons un immense espoir. Parfois, je sais pertinemment, parce que je suis l'un d'entre vous, que nous ne sommes pas aussi zélés que nous devrions l'être vis-à-vis cet espoir que nous avons. Ce sera la marque du royaume de Dieu, se distinguant de tous les efforts passés de l'homme. C'est la différence. Christ, le maître d'œuvre, a des méthodes qui fonctionneront et nous les transmettra. Et nous apprenons maintenant des choses qui seront très importantes dans ce royaume. Regardons Matthieu chapitre 19, versets 27 et 28. Le Christ avait des apôtres et des disciples qui se sont avérés fidèles. Certes, ils ont quitté la scène de la crucifixion du Christ, mais pour la plupart, ils seront dans le royaume de Dieu. Et le Christ donna à ses apôtres l'espoir de ce qu'ils feront au verset 27 et 28, parce que Pierre a posé la question ici. Prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté. Qu'en sera-t-il pour nous ? » Et certains d'entre eux, « Eh bien, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et suivre Jésus-Christ. Nous devons même aimer Christ, y compris notre propre vie, disciple de Jésus-Christ. C'est la ligne de Donc, c'est essentiellement ce que Pierre en nous. C'est une question typique de Pierre. Il était comme ça. Ok, on a tout laissé et on t'a suivi. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Et Jésus ne lui a pas dit, « Pierre, quelle attitude pourrie tu as !» Non. Au verset 28, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Cela a pu les surprendre. Certains d'entre eux auraient pu dire, « Moi, un roi? Moi, un chef ?» Ce sera leur travail. Quel sera votre travail ou votre position de service dans le royaume de Dieu? Reportons-nous à Luc 19, versets 15 à 19. Luc 19, versets 15 à 19. Il s'agit de la parabole des mines, montrant à nouveau quelque chose de très important. Ici, le roi, c'est-à-dire le Christ, récompense les serviteurs qui sont fidèles, qui ont été fidèles et qui ont effectivement tiré profit des dons initiaux. Nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu lorsque nous avons été baptisés, n'est-ce pas? Dieu vous donne son esprit. Le ministre ne vous donne pas son esprit. Le ministre a demandé à Dieu de vous donner son Saint-Esprit. C'est la façon dont Dieu travaille. Lors de la bénédiction des enfants, qui a eu lieu aujourd'hui, le ministre a demandé à Dieu de bénir cet enfant alors qu'il grandira et que les parents lui donnent la bonne direction, etc. Le ministre demande à Dieu de bénir. Donc, nous avons été bénis en recevant le Saint-Esprit de Dieu, et c'est une merveilleuse bénédiction que nous recevons. Mais à partir de là, nous devons aller de l'avant. Vous savez, l'un des signes d'identification de l'Esprit de Dieu est celui d'avoir un esprit sain, en bonne santé. C'est une merveilleuse qualité du Saint-Esprit de Dieu, avoir un esprit sain, S-A-I-N. Regardez ce que le Christ dit dans Luc 19, versets 15 à 19. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines ». Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes ». Le second vint et dit « Seigneur, ta mine a produit 5 mines ». Il lui dit « Toi aussi, sois établi sur 5 villes ». Les serviteurs de Dieu, à travers les âges, continuent toujours à s'entraîner pour servir et pour régner, et pour servir et régner. Nous sommes des sacrificateurs, nous serons des sacrificateurs et des dirigeants, et nous sommes des restaurateurs en attente. C'est ce que nous sommes des sacrificateurs, des dirigeants et des restaurateurs en attente. Le royaume et le gouvernement de Dieu arrivent. Une utopie, si vous voulez. Je déteste utiliser ce mot. Et Jésus-Christ, le prince de la paix, enseignera le chemin de la paix et de la prospérité. Ésaïe 9 est un passage privilégié des Écritures, où il est merveilleux de voir que le gouvernement reposera sur ses épaules. Et le fait est que le Christ a des épaules très larges. Et Jérusalem sera la capitale de la planète Terre. Allons à Zacharie 8, versets 3 à 5. Zacharie 8, versets 3 à 5. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle. Imaginez, vous savez, ils avaient l'habitude d'appeler la ville de Toronto, Toronto la bonne. Eh bien, elle n'a jamais été bonne, mais c'est probablement bien pire qu'à l'époque, c'est certain. Je me souviens que ma mère m'a raconté, dans les années 50, peut-être dans les années 40, quand j'étais adolescent, qu'elle se souvenait qu'un policier avait rencontré une fille dans la rue qui portait un short. Il l'a prise par le collet et l'a ramenée à la maison. « Tu ne devrais pas être dans la rue avec un short. » Je ne dis pas que c'était bien ou mal. Je dis simplement à quel point le monde a changé. C'est absolument incroyable. Continuons au verset 3 à 5. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne sainte de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées, des vieillards et des femmes âgées s'assieront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Là où j'habite à Toronto, il y a un endroit de l'autre côté de la rue où je peux prendre un café. Il y a aussi un parc tout près, un parc relativement petit avec une aire de jeu, où les garçons et les filles jouent. Alors parfois je prends mon café et je vais m'asseoir dans le parc. Mais ma femme m'a dit « Tu dois faire attention à ça ». Vous savez, je n'ai rien en tête, mais c'est un point de nos jours, vous ne pouvez même pas profiter et apprécier de voir les enfants jouer. J'ai 3 filles et 8 petits-enfants. J'adore les petits-enfants qui jouent, c'est une belle chose à voir. Mais je ne peux même pas faire ça, je dois faire attention. Alors ce que je fais maintenant, je bois mon café dans la voiture, et j'observe de loin. Mais ce ne sera pas le cas dans le royaume de Dieu. Des vieillards et des femmes âgées s'assieront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Vous voyez, lorsque les justes, comme le dit la Bible, exercent l'autorité, le peuple se réjouit. Lisons aussi Amos chapitre 9, au verset 13. Amos 9, verset 13. Voici les jours viennent. C'est catégorique. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le moût ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Mais elles seront construites différemment, c'est garanti. Ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Lisons aussi Ésaïe 11, versets 6 à 9. Passage très connu et très vrai. Il ne s'agit pas de quelque chose d'imaginaire ou de poétique. Ésaïe 11, versets 6 à 9. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Ce sera un environnement sécuritaire, même pour un enfant, qui pourra caresser un lion, je suppose. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme un bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ce sont des écritures très inspirantes. Parfois, lorsque vous les lisez à haute voix, elles ont un impact encore plus grand. Je vous le dis, c'est étonnant. La connaissance est puissante, elle l'est vraiment. Et armée de la connaissance de la façon dont Dieu veut que les humains vivent, et si elle est mise en pratique, cela aura un impact sur toutes les facettes de la société, et la paix en sera le résultat. Je voudrais terminer en lisant un extrait de l'article de M. Wannell, auquel j'ai fait référence plus tôt. Je cite « Les villes d'aujourd'hui subissent de grands bouleversements, car elles se développent au-delà de leurs capacités. Vous savez ce que la Bible nous dit au sujet des villes de demain et du rôle central qui joueront les chrétiens d'aujourd'hui. Dieu a révélé un avenir meilleur dans les pages de la Bible. Le retour du Christ sur la terre entraînera des changements remarquables pour les chrétiens qui croient en la Bible, qui se soucient des gens et qui veulent améliorer la façon dont des millions de personnes vivent. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Vous savez, le peuple éthiopien a besoin de nous. Le peuple ukrainien a besoin de nous. Les peuples d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, d'Amérique du Nord, d'Asie et de partout, ce monde a besoin de nous. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Prenez le temps d'étudier l'article de M. Wannell, Les principes bibliques liés aux habitations humaines. Apprenez ce qu'implique la planification de villes vivables qui répondent aux besoins humains et qui sont conçues en harmonie avec la nature. Ce faisant, vous pouvez apprendre aujourd'hui une dimension essentielle de ce que feront les disciples du Christ. Participer à une dimension oubliée de la Bible, construire les villes du monde de demain. Frères et sœurs, continuons à être fidèles dans les petites choses de cette vie, maintenant. Ainsi, Dieu, à l'avenir, nous utilisera puissamment, en tant que membres de son équipe gouvernementale, pour réaliser un merveilleux monde de demain. Et ne vous inquiétez pas, vous et moi aurons ce qu'il faut, car le Christ nous rendra capables. Il travaillera avec nous lorsque nous serons tous membres de la famille de Dieu et nés.